regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un grand merci aux personnes qui sont venues me voir à la Medinasia. C'était un plaisir de vous rencontrer, de revoir certaines personnes qui étaient déjà venues l'année dernière. Je vais mettre une petite vidéo sur la chaîne secondaire YouTube, donc Minuit Replay, il y a un lien en description, je t'invite à aller voir. Donc c'est une petite vidéo qui récap un peu ce qui s'est passé à la Medinasia. Et trêve de blablaterie, on y va pour l'affaire de ce soir. L'affaire du jour nous emmène à London. Bus à double étage, la Tamise, Westminster, Hyde Park, beans and sausage pour le petit déjeuner. Mais en fait, non, c'est pas à London, Europe, où on va, c'est pas en Angleterre, c'est au sud de l'Ontario qu'on voyage ce soir, dans le Canada anglophone. Nommée London en 1792, la ville devait devenir la capitale du Canada, mais Toronto, située à quelques kilomètres seulement, lui volera la vedette. La région est habitée depuis plus de 10 000 ans, et même si l'installation des Européens au Canada a, comme on le sait tous, été dévastatrice pour les populations des Premières Nations, il tient aujourd'hui à cœur à London d'honorer et d'intégrer la culture de ses peuples indigènes, tout en reconnaissant l'histoire telle qu'elle est, un passé d'oppression, de dépossession et de violence coloniale. La région alentour est très verte et agricole, on y retrouve de nombreuses fermes de fruits, légumes, produits laitiers, céréales, etc. La ville elle-même est surnommée la ville forêt et elle est idéale pour les amateurs de promenades, de randonnées ou même de trails pour les plus endurants. Dans le quartier de Hyde Park, au nord-ouest de la ville où se déroule notre affaire, les habitants aiment se balader à travers les parcs et les bois. Dans ce quartier résidentiel, la marche permet de s'aérer, de prendre soin de sa santé mentale et physique en faisant un peu d'exercice en toute liberté. Ce dimanche 6 juin 2022, la famille Afzal, qui a pris l'habitude de prendre l'air ensemble depuis le Covid et ses périodes de confinement, se promène le long de la route Hyde Park, à proximité de leur maison. D'origine pakistanaise, la famille Afzal émigre au Canada en 2007 et à titre indicatif, en Ontario, un peu plus de 25% de la population est issue de l'immigration. La famille Afzal est composée des parents, Salman et Madia, leurs deux enfants, Yumna et Fayez, ainsi que de la grand-mère de Salman, Talat. Leur destin n'a pas été des plus faciles, mais ils ont réussi. Ils sont installés, confortables financièrement, intégrés et actifs dans la vie de la communauté, aussi bien dans la société canadienne qu'au sein de la communauté musulmane. C'est le genre de voisins dont on rêve, ils apportent par exemple des plats traditionnels pakistanais, de riz, de poulet, à l'une de leurs voisines pendant la convalescence de sa mère. La matriarche, Talat, est âgée de 74 ans, elle est venue avec son fils et sa famille du Pakistan pour s'installer au Canada. Diplômée et passionnée d'art, elle divise son temps entre son métier de professeur des écoles, ses créations artistiques et ses petits-enfants. Le père de famille, Salman, 47 ans, est un homme au bon cœur, toujours souriant, jovial et optimiste. Il aime s'occuper de son jardin et de ses plantes. Comme beaucoup d'Indiens et de Pakistanais, il est un grand fan de cricket. Diplômé de l'université de Karachi en 1997, il travaille en tant que physiothérapeute dans plusieurs maisons de retraite. Un physiothérapeute, pour information, c'est un professionnel de la santé qui contribue à la prévention, au maintien et au rétablissement de diverses capacités physiques, aussi bien système cardiovasculaire et respiratoire que musculo-squelettique. Oui, ce mot existe. Doucement. Viens là. Tu restes là ? Ne pas tes fesses. Salman aime son travail, il est dévoué envers ses patients du troisième âge, il est apprécié aussi bien pour sa gentillesse et sa patience que pour ses conversations. Doux et attentionné, il consacre sa vie à aider ses patients, à maintenir leur mobilité et leur autonomie, il est aussi un père très présent pour sa famille. La mère de famille, Madia, 44 ans, c'est une vraie tête. Elle travaille pour passer un doctorat en génie environnemental, elle veut participer activement à la protection de la planète. Elle a déjà un diplôme d'ingénieur qu'elle a obtenu au Pakistan. Elle était alors l'une des deux seules femmes de sa classe sur 147 élèves. C'est une femme pétillante, généreuse, optimiste et qui est très attachée à l'éducation et à l'égalité des genres. Sur ses temps de loisirs, elle organise des événements de sciences, de technologie et de maths pour les enfants de la ville de London. Elle écrit pour des magazines spécialisés et à côté de tout ça, elle trouve du temps pour ses enfants. Les enfants sont donc élevés par des parents aimants, ouverts, qui leur inculquent des valeurs de travail, de respect, de partage et de bienveillance. Ce sont des enfants modèles, des étudiants modèles, de bons amis, et ils s'entendent tous les deux très bien. Yumna, l'aînée, a 15 ans, elle est en 3e, où elle est entrée après être sortie diplômée de la London Islamic School. C'est une jeune fille douce, une amie hors pair et une excellente élève. Elle aime apprendre et elle aime le travail d'équipe. Avant de quitter la London Islamic School, Yumna y peint une fresque gigantesque. Elle y a travaillé sans relâche pendant des semaines. Deux messages y sont écrits. Apprendre, guider, inspirer et vise la lune car même si tu rates, tu atterriras dans les étoiles. Visiblement, la petite Yumna a hérité du talent artistique de sa grand-mère. Elle rêve d'avoir un jour sa propre entreprise et pouvoir soutenir à son tour la communauté. Fayez, le petit dernier, a 9 ans, il aime l'école, lui aussi, il est très doué en classe, il adore et admire sa grande sœur. Les Afzal sont une famille parfaite, très proche les uns des autres. Ils ont instauré une tradition pendant le Covid, une promenade en fin de journée, tous ensemble. C'est l'occasion de prendre soin d'eux, mais aussi d'échanger, de raconter leur journée et de partager un moment en famille. Tous adorent ce temps de liberté et l'attendent chaque jour avec impatience. Le dimanche 6 juin 2022, la famille Afzal se promène, comme à leur habitude, le long de la route Hyde Park. Talat, Salman, Madia et les enfants Yumna et Fayez profitent de ce moment en famille. Le soleil va se coucher et ils ne vont pas tarder à rentrer. Mais à 20h40, à l'intersection entre la route South Carriage et la route Hyde Park, ils sont violemment percutés par un pick-up qui prend la fuite. La scène est chaotique, racontent les témoins. Le véhicule s'est dirigé à pleine allure sur la famille, tous seront touchés. Les services d'urgence sont appelés et ne tardent pas à arriver. Une nuée de citoyens hurlant, courant et agitant les bras les dirige vers les victimes. Yumna, 15 ans, sa mère Madia, 44 ans, le père Salman, 47 ans et la grand-mère Talat, 74 ans, sont tués sur le coup. Fayez, 9 ans, est conduit à l'hôpital dans un état critique, touché à la colonne vertébrale et à la jambe. En un claquement de doigts, la famille est anéantie alors qu'ils se promenaient paisiblement un dimanche soir dans leur quartier. Pendant que les passants appellent les autorités et essaient de porter secours aux membres de la famille Afzal, le conducteur du pick-up dont l'avant est enfoncé et couvert de sang se dirige vers le parking d'un centre commercial à 7 km de la Seine. 5 minutes après avoir percuté la famille Afzal, il se gare près d'un conducteur de taxi et lui demande d'appeler le 911 lui disant qu'il vient de percuter des piétons.
Okay, what's going on? What's the emergency?
No, there's a truck here and he said he hit somebody.
There's a truck? What kind of truck is it?
It's a Ram 1500.
Is it a black truck?
Yes.
What's
yes.
The plate on it?
The plate is
It was me that did it. Come arrest me.
Okay, what's the plate on the truck? Can you ask him his name?
I don't know, but it was me that crashed into them. Get over in the
car. Okay, what's your name?
Nate Beltman.
Sorry, what's your name?
Nate Beltman.
Nate? Spell your last name.
Beltman. B-E-L-T-M-A-N.
T-M-A-N. How old are you or your date of birth?
December 20th, 2000.
December 20th, 2000. Are you injured?
Nope, I did it on purpose.
Why did you do it on purpose?
Get the f*** over here, would you?
Why did you do it on purpose?
Have
you been drinking or using drugs?
Le terme God Bot est traduit par le dictionnaire urbain comme un mot d'argan servant à désigner une personne endoctrinée et qui suit les volontés de leaders religieux sans se poser de questions. God, Dieu, Bot. Je crois qu'on sait tous ce qu'est un bot, mais voici quand même une petite définition. Un bot, c'est une application logicielle automatisée qui exécute des tâches de manière répétitive. Le plus souvent, ce terme God Bot désigne les personnes chrétiennes qui perpétue des crimes de haine sans écouter la raison ou la logique. Quelques minutes plus tard, la police arrête Nathaniel Veltman. Il porte un gilet pare-balles, un casque militaire et un t-shirt sur lequel il a peint lui-même une croix de croisée. Les croisés sont les chevaliers chrétiens européens envoyés par le pape lors des croisades du XIe au XIIIe siècle pour affronter les Turcs musulmans et conquérir des territoires dont Jérusalem en Palestine. Mais on le sait tous, sous couvert de religion, il s'agit en réalité de campagnes de guerre de territoire. Aucune religion n'incite à la haine dans les textes sacrés, que ce soit chez les chrétiens, les juifs ou les musulmans, ni hier ni aujourd'hui. Au moment où les officiers lui passent les menottes, Nathaniel leur dit qu'il voulait passer un message fort contre l'immigration musulmane. Qui est Nathaniel Veltman? Nathaniel Veltman grandit avec ses 5 frères et sœurs, dont sa sœur jumelle, dans la ville de Strathroy, à 35 km de London. Mark, son père, travaille au collège Lambton, d'art appliqué et de technologie. Sa mère, Alicia, est mère au foyer. Les 6 enfants, dont Nathaniel, sont élevés par un père introverti et distant, et une mère sévère et extrêmement religieuse, qui fait l'école à la maison et distribue des fessées à tout va. Évidemment, les enseignements sont très axés. Ils étudient la Bible du lever au coucher du soleil à tous les repas. Les enfants sont isolés pour éviter la mauvaise influence des autres enfants de leur âge. À 7 ans, la mère de Nathaniel lui montre des images de l'enfer, des images de torture qui subissent les non-catholiques. Selon elle, Nathaniel sera très marqué par ces images, ça crée chez lui un conflit interne. Il commence à détester sa mère, mais il craint d'aller en enfer s'il a des pensées haineuses. Il fait pipi au lit jusqu'à ses 11 ans et il aura plusieurs amis imaginaires. Alors certes, c'est pas un mal en soi d'avoir des amis imaginaires, mais cumulé à tout l'environnement décrit, ça témoigne chez Nathaniel d'un sentiment d'isolement et de grande solitude. Nathaniel devient un adolescent colérique, obsessionnel, lui y voit le signe d'une dégradation de sa santé mentale. Sa mère, elle, voit un problème d'ordre spirituel. Elle lui donne à lire des versets de la Bible, plutôt que de lui faire consulter un médecin. Et selon Nathaniel, quand il insiste pour voir un docteur, elle le punit. Il dit qu'il essaye d'en parler à ses frères et sœurs, à son père, mais que sa mère se met en colère quand elle l'apprend. Alors je précise une chose importante, les informations qu'on a sur la vie de Nathaniel, c'est l'histoire de Nathaniel par Nathaniel. Il a dû sûrement beaucoup lire du Freud pour penser que sa mère est à 100% responsable de son mal-être et de ses traumatismes. Au moment du divorce de ses parents, Nathaniel a alors 14 ans et ses colères empire. La relation avec sa mère se dégrade. Elle le décrit à ce moment-là comme combatif et insurgé. Après que le divorce soit prononcé, une décision de justice lui interdit de passer du temps seul avec ses frères et sœurs, et il est aussi précisé dans les documents du divorce que Nathaniel ne doit pas utiliser son téléphone de façon inappropriée et qu'il ne doit pas casser du sucre sur le dos de sa mère, auprès de ses frères et sœurs, c'est-à-dire parler d'elle en mal dans son dos. Nathaniel devient ouvertement agressif et hostile envers sa mère, il la poursuit dans la maison, elle dit qu'elle s'enferme dans sa chambre pour avoir la paix. À 16 ans, avec l'aide d'un avocat, il se fait émanciper et il part vivre chez des amis. Il fréquente alors le lycée de Strathroy. À 18 ans, on lui diagnostique une dépression et un trouble obsessionnel compulsif. Il prend alors des antidépresseurs et il est suivi par un psychiatre. Si on ne connaît pas la suite de son histoire, on pourrait se dire qu'il enclenche un processus de guérison, notamment grâce à la consultation avec ce médecin. Malgré les ressentiments qu'il a vis-à-vis de son enfance, il retrouve le chemin de la religion parce qu'il pense que son mal-être est dû au fait de s'en être éloigné. Il dit lui-même lors de son procès « Je suis devenu un fanatique religieux ». À mon tour. Nathaniel emménage ensuite à London en avril 2020. Il étudie alors à l'université et au fur et à mesure des années, sa santé mentale et ses obsessions continuent à se dégrader. Elle décline même particulièrement pendant la pandémie. Il passe beaucoup de temps seul chez lui, comme beaucoup de monde pendant le Covid. Nathaniel tombe dans une consommation excessive de contenu complotiste, de propagande et aussi de pornographie sur Internet. Il est capable de passer jusqu'à 12 heures devant son écran à regarder entre autres des vidéos anti-musulmans, anti-immigration, etc. Il raconte qu'à cette époque, il est au summum de sa dépression et que des pensées de se donner la mort, de se dévivanter, lui viennent pour la première fois. Après les périodes de confinement, il retourne en présentiel à l'université et il développe à ce moment-là des comportements erratiques. Il se met à détruire compulsivement ses affaires, il jette de la nourriture par terre dans son appartement, il arrache sa télé du mur, il se débarrasse de ses meubles, il continue à consommer autant de contenus bizarres en ligne, aggravant son état dépressif. Il spirale dans son mal-être et il pense alors qu'il peut le soulager en se débarrassant de ses possessions et de ses biens. Un raisonnement très punitif, peut-être une séquelle de son éducation religieuse extrême. D'ailleurs, en parlant de punition, Nathaniel raconte que pour se punir et s'empêcher de consommer trop de contenu pornographique, il se poignarde les parties génitales avec un couteau. Il a complètement perdu le fil et le contrôle de lui-même. Il se convainc à ce moment-là qu'il fait partie des rares éclairés éveillé et qu'il a une compréhension de lui-même et du monde qui échappe à la masse. Il s'enfonce dans sa désillusion. Il écrit un manifeste, A White Awakening, en français, un éveil blanc ou un blanc en éveil. En gros, il s'agit d'un texte à la gloire de la suprématie de la race blanche, un texte plein de haine et qui relaie des théories islamophobes, conspirationnistes, mais aussi contre les personnes noires, les personnes juives, les gays, et bien sûr les femmes. Et c'est là qu'on va avoir un petit problème de vocabulaire. Certains mots sont interdits sur cette plateforme, donc pour éviter la démonétisation et permettre à la chaîne de vivre, je ne vais pas pouvoir utiliser certains mots. Je vais les remplacer par terrorisateur, acte terrorisant. Je sais que je vais avoir l'air conne, mais bon, je pense que tu vas comprendre. Ce document, ce manifeste, écrit par Nathaniel, nous rappelle le manifeste Le Grand Remplacement, écrit par le terrorisateur d'extrême droite, responsable des attentats sur deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande et qui ont fait 51 morts et 49 blessés en 2019. Au passage, je t'invite à regarder la vidéo de Mogota, il a traité cette affaire sur sa chaîne YouTube, je te mets un lien en description. Nathaniel ressent sa première pulsion meurtrière terrorisatrice à 13 ans, après avoir vu des vidéos de fœtus en train d'être détruits pendant son cursus scolaire, évidemment dans une école privée catholique et visiblement un chouïa conservatrice. Il a alors l'idée qu'un jour il attaquerait un centre d'avortement à l'arme à feu. Après l'attaque de la famille Afzal, une liste de 12 centres sera retrouvée dans son appartement et dans l'historique de son téléphone, l'itinéraire vers le centre hospitalier pour femmes de Toronto. Au moment de l'attaque, Nathaniel vit dans un appartement du centre-ville de London. Il étudie et travaille à mi-temps dans une ferme qui emballe des œufs pour la distribution. Il achète son pick-up quelques semaines avant l'attaque et probablement pour chercher plus d'illumination sur le monde, un peu de thérapie, il fait un trip à la psilocybine. La psilocybine, c'est un champignon hallucinogène. Ce petit voyage de l'esprit, Nathaniel le fait environ 40 heures avant le drame. C'est une info à retenir pour plus tard, et on ne sait pas si la consommation de ce genre de substances est une pratique fréquente chez Nathaniel. Le crime est très vite qualifié d'attaque terrorisante dans les médias, et heureusement, parce que souvent, quand le présumé responsable est blanc et pas de confession musulmane, il y a débat, on se pose la question. Plusieurs personnages politiques soutiennent cette qualification, notamment le Premier ministre Justin Trudeau, qui qualifie le crime d'attaque terrorisante motivée par la haine perpétrée dans l'une de nos communautés, pour reprendre ces mots. Alors Justin, je l'aimais bien, mais jusqu'au 7 octobre. Bref, c'est un autre débat. L'ONU définit un acte terrorisant comme l'intimidation de population ou de gouvernement par la menace ou la perpétration d'actes de violence causant la mort, des blessures graves ou la prise d'otages. L'ONU définit ces actes terrorisants comme des actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l'ensemble d'une population ou un groupe de population à des fins politiques. Nathaniel dit pendant son interrogatoire que son geste visait à éveiller la peur auprès des musulmans et inspirer d'autres assaillants, pour reprendre les mots de Nathaniel. Le procès de Nathaniel Veltman s'ouvre en septembre 2023, plus de 2 ans après l'attaque. L'enjeu de l'accusation est de faire reconnaître le meurtre au premier degré des 4 membres de la famille Afzal, ainsi que la tentative de meurtre sur le petit Fayez, mais aussi de faire reconnaître l'attaque comme un acte terrorisant. Et voici les arguments qui seront exposés par la couronne. Un exposé des faits est présenté, il indique que Nathaniel conduisait son pick-up dans une rue de London ce soir-là, et quand il a vu les Afzal, il a fait demi-tour pour revenir vers eux. Alors qu'il s'approche de la famille, il accélère et il le dit lui-même à la police pendant son interrogatoire. Les données de navigation de son pick-up montrent qu'il se dirige vers la droite dans le but de frapper les Afzal. La pédale de frein n'est jamais touchée. 19 témoins racontent également cette version des faits. Dans son appartement souillé de nourriture seront retrouvés son manifeste suprémaciste, le livre d'Hitler Mein Kampf, dont certains passages sont stabilotés, et d'autres livres écrits par d'autres suprémacistes. le manifeste du tueur de masse de Nouvelle-Zélande et la vidéo GoPro de ses attaques sont également retrouvés sur l'ordinateur de Nathaniel, et l'analyse des données montre qu'ils ont été ouverts de façon répétitive durant les mois précédant l'attaque de la famille Afzal. Le manifeste du tueur de masse d'extrême droite norvégien Anders Breivik, qui avait fait 77 victimes en 2011, est aussi téléchargé sur le téléphone de Nathaniel en avril de l'année précédente. L'historique de son ordinateur révèle des centaines d'heures de vidéos d'autres tueurs de masse, du contenu suprémaciste, du contenu complotiste. Plusieurs couteaux et une carabine à air comprimée sont aussi saisis, et plus incriminant encore, une liste des statistiques meurtrières de l'impact d'un véhicule sur un corps humain est retrouvée. Au moment de l'appel 911, Nathaniel avoue être responsable de l'attaque. Et enfin, dernier élément présenté par la couronne, Nathaniel n'a pas sa langue dans sa poche pendant son interrogatoire après son arrestation. Il révèle de lui-même beaucoup d'informations sur l'agression et ses motivations, enfin sur l'attaque et ses motivations. Il dit qu'il a déjà eu à deux reprises des pulsions meurtrières sur des groupes de musulmans. Une, le 5 juin, il se rend à Toronto parce qu'il sait que la ville compte une large communauté musulmane. Il porte alors son casque et son gilet pare-balles. Il qualifie ce déplacement de « mission de repérage ». Et une autre fois, le 6 juin, alors qu'il rentre du travail. Il ressort d'ailleurs un peu plus tard et assassine la famille Afzal. Il dit que ses motivations sont politiques, qu'il sort de chez lui ce jour-là pour mener une attaque islamophobe parce qu'il est contre l'immigration, contre la diversité culturelle et qu'il pense que plusieurs cultures ne devraient pas coexister sur un même territoire. Il utilise son pick-up pour envoyer un message fort et inspirer d'autres suprémacistes blancs. Un véhicule peut être utilisé pour attaquer des musulmans, dit-il. La couronne prouve donc la préméditation de l'attaque et pour appuyer sa nature terrorisante, l'accusation insiste sur les motivations politiques, idéologique et religieuse de Nathaniel. Il a voulu intimider la communauté musulmane, ce qui constitue un acte terrorisant selon le code criminel canadien. Nathaniel dit lui-même, ce n'était pas un désir psychopathe de tuer des gens, c'était une attaque politique à 100%. Il dit que quelques instants avant l'attaque, il voit la famille Afzal, que leurs vêtements lui laissent penser qu'ils sont musulmans et il décide de les assassiner, bien qu'ils ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. « J'ai visé les parents, dit-il, mais je savais qu'il y aurait des victimes collatérales, et je m'en foutais, parce que je savais que l'attaque devait être brutale. » Nathaniel, alors âgé de 22 ans, et son équipe de défense plaident de leur côté non coupable de meurtre au premier degré et de la charge de terrorisation et de la tentative de meurtre sur le petit Fayez. Mais t'as dit que t'avais fait exprès ? La défense soutient que Nathaniel n'a pas prémédité son geste, qu'il s'agit d'un accident et qu'il devrait être condamné pour homicide involontaire. Il ne pensait pas les tuer, bon, il leur a juste foncé dessus avec un pick-up équipé d'un pare-buffle de 100 kg. Leur culot ne s'arrête pas là, les avocats de la défense iront jusqu'à dire que Nathaniel portait son gilet pare-balles et son casque militaire parce qu'il se sentait très bien habillé comme ça. C'est un des plus gros what the fuck qu'il m'était donné de découvrir. La défense reprend tout le discours pleurnichard du pauvre garçon éduqué dans un foyer religieux trop strict par un père absent et une mère bigote. Sa santé mentale sera aussi étudiée, ainsi que le trip aux champignons magiques qu'il a fait deux jours avant l'attaque. Il dit qu'il se sentait encore sous l'emprise des substances et qu'il se sentait dans un état second. Un psychiatre affirme que Nathaniel souffre d'une litanie de troubles mentaux, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, anxiété, j'en passe. Le psychiatre confirme aussi qu'il est possible que 40 heures après la consommation des champignons magiques, certains effets se fassent encore ressentir. Surtout si la personne n'est pas une consommatrice régulière, et dans le cas de Nathaniel, il est probable qu'il ne l'ait pas. Cet argument de merde de la défense sera balayé parce que le rapport que propose le psychiatre se base sur une autre substance. Mais vous l'avez trouvé où ce psy ? Ce rapport affirme quand même que Nathaniel est bien en mesure d'être jugé pour ses crimes. Pour justifier la version des faits qu'il a donnée aux enquêteurs pendant son interrogatoire, Nathaniel dit que les conditions de détention étaient pénibles et qu'il a inventé cette histoire pour justifier les meurtres à la police et à lui-même et passer à autre chose. Déjà depuis quand une confession ça te fait passer à autre chose ? Le profil de Nathaniel est remis au centre du procès pour justifier la préméditation. Le procureur de la couronne termine son plaidoyer en disant que le jour où Nathaniel a laissé de côté ses pensées de Se dévivanter, sa rage et sa colère qui ont toujours été présentes se sont projetées en dehors de lui et déterminé à tuer, il a mené son attaque terrorisante. En août 2022, la juge décide que le procès ne peut plus se tenir à London au vu de la médiatisation de l'affaire et de l'impact de l'attaque sur toute la communauté londonienne. Dans un souci d'impartialité, le procès déménage dans la ville de Windsor. Près de 70 personnes viendront raconter comment ils ont été affectés par l'attaque. C'est les fameux Victim Impact Statements qui existent au Canada et aussi aux États-Unis. L'un des avocats de Nathaniel dira que de toute sa carrière, il n'a jamais vu autant de témoignages lors d'un procès. Beaucoup de membres de la famille proche et éloignée des Afzal prennent la parole, des frères et sœurs, des oncles et tantes, des cousins, la mère de Madiha, des amis, tous déplorent la perte et le manque de ces quatre êtres au bon cœur de ces âmes pures. Ils racontent comment la communauté et la famille entourent et soutiennent le jeune Fayez, seul survivant de l'attaque, désormais orphelin. On tente de lui créer un semblant d'enfance normale. Un des petits cousins lira un texte écrit par le petit Fayez du haut de ses 9 ans et dans lequel il décrit la peine immense d'avoir perdu sa sœur, ses parents et sa grand-mère, la violence de l'attaque qu'il a laissé fortement handicapé et le travail qu'il fait depuis pour récupérer l'usage de ses jambes et espérer pouvoir un jour remarcher. La mère de Madiha décrit l'attaque de la famille Afzal comme une attaque contre la sûreté et la sécurité de tous les Canadiens. La belle-sœur du couple Afzal dit que, depuis l'attaque, elle ressent son hijab comme une cible pour les haineux et que, pire encore, son hijab fait de sa famille une cible également. Le message général au-delà de la peine, c'est une crainte, une angoisse, que comme la famille Afzal a été visée parce qu'elle était musulmane, d'autres attaques du genre pourraient se produire. Après 11 semaines de procès et 6 heures de délibération, le jury rend enfin son verdict. Nathaniel Veltman, 23 ans, est reconnu coupable de 4 meurtres au premier degré sur les personnes de Yumna, Madiha, Salman et Talat et d'un compte de tentative d'assassinat sur la personne de Fayez. Dans le droit du Canada anglophone, une condamnation pour meurtre au premier degré implique automatiquement une sentence à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Le contexte terrorisant est à ce moment-là avancé comme une raison de la préméditation des meurtres. Une nouvelle audience se tient le 23 janvier 2024, 2 ans et demi après les faits. Cette fois-ci, l'enjeu est de définir la peine pour la tentative de meurtre du jeune Fayez et de déterminer si les meurtres constituent un acte terrorisant. Une telle décision serait une première au Canada et elle ferait jurisprudence et dicterait la manière dont la justice traitera à l'avenir les crimes haineux motivés par des idéologies ou des idéaux politiques. La défense et l'accusation plaident à nouveau. L'accusation réclame une peine de prison à vie supplémentaire pour la tentative de meurtre de Fayez et exige la classification de l'attaque sur la famille comme acte terrorisant. Il l'a fait pour intimider la population musulmane et ça a marché, dit la couronne. Certains voient désormais le Canada différemment et certains voient aussi London différemment. Fin de citation. La défense campe sur ses positions et nie l'accusation de terrorisation. Selon ses avocats, Nathaniel est un jeune homme perdu, à la santé mentale dysfonctionnelle. Il n'est pas un homme terrorisant. Le manifeste qu'il écrivait, il n'a jamais été publié, il l'écrivait juste pour lui. Et puis, il n'y fait pas l'éloge de la violence envers les musulmans. D'ailleurs, le document est plus antisémite qu'islamophobe. Alors, les avocats qui disent presque qu'ils détestent plus les feuches que les musulmans, bon, c'est pas grave. La défense soutient même que oui, il s'agit d'un crime délibéré et planifié visant effectivement une population en particulier, les musulmans, mais il n'y a pas de preuve qu'il s'agit d'un acte terrorisant. En réalité, la défense s'appuie sur la définition légale de la terrorisation et dans ce cadre, effectivement, l'accusation va devoir ruser pour faire passer la sanction. Nathaniel Veltman, lui, s'excuse enfin pour la première fois de son crime. « Je suis désolé pour la douleur et la souffrance que j'ai causée. Je veux vous faire savoir que j'ai beaucoup appris sur moi au cours de cette affaire. » Génial, 4 meurtres, une leçon de vie. Alhamdoulilah. Plus particulièrement, continue-t-il, j'ai découvert que je souffre de troubles mentaux et qu'ils ont joué un rôle dans ce tragique incident. C'est pas ma faute, c'est ma tête. Nathaniel annonce aussi fièrement que depuis qu'il a compris ses troubles, il n'est plus un suprémaciste blanc. Ça l'a quitté, voilà, comme ça. Il va peut-être même se convertir à l'islam bientôt. Encore une fois, alhamdoulilah. Mais pour la famille des victimes, ce ne sont pas des excuses suffisantes. Pire, il ne croit pas qu'il s'agit d'excuses, mais d'une stratégie de défense, un plaidoyer pour adoucir sa peine de prison. selon eux, s'excuser pour de vrai, ce serait accepter l'accusation de terrorisation et non pas de s'en défendre. Tout le monde sait ce qu'il a fait, il a utilisé la violence et a tué 3 générations, dont une enfant, pour intimider une partie de la population. En niant l'intention de son geste depuis 2 ans et demi, Nathaniel révèle la corruption de son idéologie. Fin de citation. La juge doit rendre son verdict le 23 février prochain. Même si les meurtres venaient à être classés comme actes terrorisants, la sentence de prison à vie ne serait pas impactée. La période de sûreté pourrait, elle, se voir renforcée et des programmes spéciaux pourraient être imposés à Nathaniel pendant sa condamnation. En l'état, Nathaniel est condamné à la prison à vie et ne peut pas demander de libération conditionnelle avant 2046. Pour conclure, on revient sur la famille Afzal. L'enterrement de Yumna, Madia, Salman et Talat rassemble à la mosquée de London plusieurs milliers de personnes qui viennent rendre hommage à la famille dont les 4 cercueils sont couverts de drapeaux canadiens. Tous se souviennent d'une famille heureuse, bienveillante et charitable, arrachée à ce bonheur par une attaque haineuse un soir de juin pendant une promenade dans leur quartier. Et le Canada tout entier, endeuillé et submergé par l'émotion, appelle à des actions pour combattre l'islamophobie. La police canadienne rapporte que les crimes visant spécifiquement des personnes musulmanes ont augmenté de 71% entre 2020 et 2021. Depuis 2016, parmi tous les pays du G7, le Canada est le pays qui a vu le plus de musulmans tués lors d'attaques haineuses dirigées selon le Conseil national des musulmans canadiens. Pour rappel, le G7 est un regroupement informel de 7 économies avancées du monde: l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'imam Abdel Fattah Twakal, président du Conseil des imams de London Council, s'exprime. La peine ressentie par la famille et la communauté est réelle. La lutte, la peur, l'appréhension et le manque de sécurité sont réels. J'ai eu affaire personnellement à des membres de la communauté qui ont été agressés verbalement, se sont fait cracher au visage et ont été agressés physiquement parce qu'ils sont musulmans. En tant que Canadiens, nous pouvons faire mieux que ça. Nous devons prendre des actions concrètes pour éradiquer toute forme de haine dans notre société. Fin de citation. En 2017, un homme attaque le centre culturel islamique du Québec avec une arme à feu. Il tue 6 personnes et en blesse 8 autres. Le tueur ne sera pourtant pas qualifié de terrorisant. Pourtant, pendant le procès de Nathaniel, le juge rappelle que la terrorisation dépasse l'acte criminel en lui-même et comprend l'intimidation du public et de son sentiment de sécurité. Intimider, faire régner la peur, s'attaquer au sentiment de sécurité et d'appartenance, c'est violer le droit fondamental des citoyens et la démocratie. Pour information, c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'un jury est confronté à une affaire de suprémacistes blancs terrorisants et le verdict tombe enfin courant février 2024 pour savoir si cet acte est qualifié de terrorisant. La couronne canadienne estime que oui. Un grand soulagement pour la famille Afzal, que ça ne fera pas revenir certes, mais ça permet d'avoir un nouveau cadre légal pour ce type de crime de haine en droit pénal. Cette jurisprudence permet dorénavant de pouvoir reconnaître toute attaque du genre pour ce qu'elle est, peu importe la communauté visée. C'est aussi un soulagement pour la communauté musulmane, et pas seulement au Canada, de voir cet acte qualifié pour ce qu'il est réellement, un acte terrorisant. Et quand c'est non, on se pose pas la question deux fois. Quand c'est un non-musulman, il faut carrément une audience, un argumentaire. Mais ça reste quand même une victoire, et je mets entre guillemets parce que cette victoire, elle part quand même d'une tragédie qui coûte la vie à 4 personnes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors évidemment, étant de confession musulmane, il me tenait à cœur de traiter cette affaire, de parler de la famille Afzal. Cette vidéo est tournée, on est à la fin de la première semaine du mois de Ramadan, et je pense qu'elle va sortir peu avant la fête de l'Aïd. Donc, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Ouais. Pour honorer la grand-mère, je dirais que, donc dans le souci de respecter l'environnement et de protéger la planète, terminer peut-être avec un random item, mais ce serait la consommation de viande, évidemment. Alors j'essaie d'en parler beaucoup autour de moi. J'ai été végane pendant un mois, ça n'a pas duré très longtemps. C'est difficile de changer ses habitudes alimentaires, peu importe la raison pour laquelle on le fait, peu importe les convictions qu'on peut avoir. Et avec Justine, on est en train de doucement transitionner vers une alimentation avec très 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 peu de viande. Alors on veut essayer de partir sur une fois par semaine de la viande et une fois par semaine du poisson. Je suis pas pour l'idéologie vegan dans le sens où je suis pas quelqu'un qui pense que c'est de la cruauté animale, même si je respecte les personnes qui sont véganes pour uniquement ces raisons-là. Mes préoccupations à moi, elles sont purement environnementales. Et aussi, bien sûr, la protection animale, dans le sens où ça dépend comment le sacrifice est fait. En tant que musulmane, déjà, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas consommer de la viande, parce que on a le droit de consommer de la viande en tant que musulman. Ce que j'encourage à faire, c'est tout ce qui a trait à l'environnement et au respect des conditions animales et des conditions du sacrifice animal. Donc faire attention à l'endroit où on achète sa viande, consommer plus de fruits, plus de légumes, de toute façon c'est meilleur pour la santé, recycler évidemment, et voilà, toujours avoir des réflexes que en tant que musulman, personnellement mon père essaie de m'inculquer depuis que je suis petite, comme économiser l'eau, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que j'invite tout le monde à faire, pas que la communauté musulmane, bien sûr. C'est une question peut-être ouverte pour les personnes qui n'y pensent pas du tout et qui ne veulent pas du tout. Ça peut être un débat intéressant d'avoir, évidemment, dans le respect. Laisse un commentaire. Je t'invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux. N'oublie pas d'aller voir ce que je fais sur Twitch, sur Instagram, sur Discord aussi, et puis l'autre chaîne YouTube. Merci, c'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.